Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du jeudi 14 décembre 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu Tessier.
Bon matin.
Vous avez mis votre T-shirt Maz.
Ben oui, comme j'en ai parlé la semaine dernière et là je l'ai retrouvé.
Oui, et on rappelle que Maz, c'est le groupe qui a composé la musique thème de l'émission.
Exact.
Alors, 14 décembre, est-ce que vous avez une chronique passionnante à nous proposer?
On est passé des choses aujourd'hui dans l'histoire. On commence en 1900 à Berlin. Max Planck présente cette théorie des quanta, c'est-à-dire le nom donné à une théorie physique qui tente de modéliser le comportement de l'énergie à très petite échelle à l'aide des quanta. Alors, son introduction a bousculé plusieurs idées reçues en physique de l'époque. Elle a servi de pont entre la physique classique et la physique quantique, dont la pierre angulaire est la mécanique quantique, née en 1925. 1902, à Québec, un incendie détruit l'hôtel Victoria. Le nouveau roi Frédéric renonce au trône de la Finlande après seulement 2 mois. 1939, l'Union soviétique est chassée de la Société des Nations. En 1944, en France, les grandes mines de charbon sont nationalisées. En 1955, toujours un 14 décembre, le Conseil de sécurité des Nations unies s'agrandit. Admission de nouveaux membres, dont l'Albanie, la Jordanie, l'Irlande, le Portugal, la Hongrie, l'Italie, l'Autriche, la Roumanie, la Bulgarie, la Finlande, et là je respire, le Sri Lanka, le Népal, la Libye, le Cambodge, le Laos et l'Espagne. La famille s'agrandit.
Vous avez bien fait de
respirer. Oui. En 1957, l'aéroport de l'ancienne Lorette, près de Québec, est inauguré. 1960, la collision entre un DC-8 et un Constellation, ce sont deux avions, au-dessus de New York, fait 136 morts. 1960, la signature de la convention de création de l'Organisation des coopérations de développement économique.
Là aussi, ça demande du souffle.
L'OCDE. 1961, élue dans Jacques Cartier lors d'une partielle, Claire Kirkland Cassegrain est la première femme députée au Québec. 1962, la sonde américaine Mariner 2 prend la première photo en gros plan de Vénus. Et là, j'en ai, ça ne se finit plus. 1993, une vitre d'une église du quartier de Ahuntsic à Montréal est brisée. Richard Bernabé s'enfuit et sera rattrapé par des policiers qui le mettront dans un coma végétatif. Il décédera en mai 1996. Et en terminant, 2008, 8 ans et un jour après son élection à titre de président des États-Unis, George W. Bush, en pleine conférence de presse à Bagdad, peut-être vous vous en souviendrez, échappe de justesse à un jet de chaussures de la part de journalistes irakiens furieux des propos du président américain sur la guerre en Irak. Et pour ce qui est des naissances du 14 décembre, la romancière anglaise Jane Austen, née en 1775, et Nostradamus, est né un 14 décembre 1503. On se souvient qu'il est médecin, apothicaire et fameux astrologue français. Et en 2003, c'est le décès du musicien François Robert, qui était le chef d'orchestre des chansons, de la plupart des chansons de Jacques Brel. Le regretté poète québécois Gaston Miron nous quitte en 1996. En 1921, le compositeur français Camille Saint-Saëns nous quitte un 14 décembre. Et George Washington, le premier président des États-Unis, lui qui était né en 1732, nous quitte en 1799.
Il faut souligner aussi l'anniversaire d'une dame fondamentale dans ma vie, Mathieu. Devinez qui?
J'imagine peut-être votre mère.
Oui, Françoise Dyot-Denis, qui célèbre aujourd'hui ses 85 ans. Et elle a plus d'énergie que moi. Alors, maman, qui est une auditrice très fidèle de Canal M, bon anniversaire.
Thank you.
En une de la presse plus aide médicale à mourir, beaucoup de médecins refusent de l'administrer. À Laval, près de 80 % des médecins ont refusé de prendre part au processus, se prévalant de la cause d'objection de conscience. Explication. Exclusif à la presse, des Hells refoulés au Mexique et en République dominicaine. La chronique de Mario Girard, le titre « Notre patrimoine dans le fond de la boîte à bois ». La chronique d'Hugo Dumas, « J'ai fait la paix avec ça ». Après l'échec de votre beau programme, Véronique Cloutier prépare son retour à Radio-Canada. Exclusif à la presse, sous la plume de Daniel Renault, les Hells Persona Non Grata. Si des Hells Angels québécois ont prévu passer les fêtes dans le sud et ont déjà acheté leur billet d'avion, ils pourraient avoir une mauvaise surprise. Il semble que le Mexique et la République dominicaine ne veuillent plus de nos motards. La presse a appris de diverses sources que, depuis un peu plus d'un an, une dizaine d'individus membres des Hells Angels, ex-membres ou relations de ce groupe de motards, ont été refoulés à leur arrivée dans un aéroport du Mexique ou de la République dominicaine. La tendance semble s'être accentuée dans les dernières semaines, selon nos informations. Des gars sont arrivés au Mexique, certains avec leur famille ou leur conjointe pour des vacances, et on leur a dit de retourner chez eux car ils étaient liés au crime organisé, a décrit une source du milieu judiciaire. Le Mexique et la République dominicaine, où les Hells Angels possèdent à Saint-Domingue une section dans laquelle on retrouve d'anciens membres québécois, sont des pays considérés comme des plaques tournantes de l'importation de cocaïne au Canada, et les prétentions des autorités canadiennes sont que les Hells Angels québécois se rencontrent ou rencontrent des contacts et brassent des affaires lorsqu'ils se rendent dans ces pays, même en compagnie de proches. Certaines rumeurs veulent que les autorités mexicaines possèdent une liste de motards québécois qui seraient consultés au poste douanier. Des policiers d'ici ont toutefois confié à la presse, sous le couvert de l'anonymat, que jamais les autorités canadiennes n'oseraient fournir une telle liste en raison de la Charte des droits et libertés et des risques de poursuite. Ils croient plutôt que les informations obtenues par les douaniers mexicains pourraient provenir d'Interpol, organisation internationale qui regroupe les corps de police de 192 pays, dont le Canada, et par laquelle ceux-ci s'entraident et échangent des informations. Une autre exclusivité de la presse, un trou de 13,2 millions dans les finances de Terrebonne. C'est un article de Kathleen Lévesque. L'administration du nouveau maire de Terrebonne, Marc-André Plante, a découvert un manque à gagner de 13,2 millions dans les finances de la municipalité. Si la préparation budgétaire s'annonce difficile, l'engagement de limiter la hausse des taxes est toutefois maintenu, assure le maire Plante. Élu le 5 novembre dernier à la tête de Terrebonne avec son équipe de l'Alliance démocratique, M. Plante et son équipe ont fait face à quelques surprises. Tout n'avait pas été dit. On part de plus loin que je pensais, a indiqué en entrevue avec la presse le maire Plante. Il va y avoir une correction dans le budget et une série de mesures, un peu comme les 12 travaux d'Astérix. Le maire Plante entend modifier la taxation de l'eau alors que le secteur résidentiel subventionnait, selon lui, le secteur commercial et industriel. Il va y avoir une correction dans le budget et une série de mesures, un peu comme les 12 travaux d'Astérix, je viens de le lire et je vous le relis. Mais le compte de taxes de citoyens, lui, sera globalement protégé. Ça va être en bas de 1 % a-t-il assuré. À Terrebonne, il n'y a pas de plan stratégique. On n'a jamais adopté de vision ni de plan de gestion de la dette, dit Marc-André Plante, maire de Terrebonne. Éditorial. Enfin, de l'information pour le patient, c'est Ariane Kroll qui signe ce texte. Les Québécois pourront voir leurs résultats de tests et leurs ordonnances de médicaments en ligne d'ici l'été prochain, a annoncé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, cette semaine. On est encore bien loin du dossier médical complet, mais c'est un premier pas vers le patient et le 21e siècle. Dans un premier temps, les patients auront seulement accès aux principaux éléments du fameux dossier Santé Québec, DSQ, soit les médicaments obtenus en pharmacie, les résultats de tests de laboratoire et les rapports d'imagerie médicale. N'empêche, c'est déjà un net progrès par rapport à la situation actuelle dont nous avons déjà dénoncé le ridicule. Le DSQ, rappelons-le, est réservé aux professionnels autorisés. Si vous voulez voir les données qui vous concernent, vous devez faire une demande d'accès à l'information, utiliser le formulaire, retourner le dit formulaire par la poste ou par télécopieur, et ce qu'on vous enverra ne sera qu'un polaroid des renseignements disponibles au moment de votre demande. Le carnet santé, lui, sera alimenté au fur et à mesure, avec un délai de 30 jours pour que le patient puisse apprendre les résultats de son médecin et non les recevoir seul devant son écran, et pourra être consulté depuis un ordinateur, une tablette ou un simple téléphone intelligent pour relire son résultat d'IRM à tête reposée ou en faire part à son physiothérapeute. C'est quand même plus pratique que d'avoir à demander une copie au médecin ou à la clinique. Bien sûr, il faudra voir comment se passe le projet pilote annoncé pour le début de janvier et le déploiement dans toute la province promis d'ici la fin du printemps. Sur le fond, toutefois, le bien fondé du projet ne fait aucun doute. Il est grand temps que le système de santé s'ouvre aux patients et leur donne facilement accès aux informations qui les concernent. Mines antipersonnelles, toujours plus de victimes. Les mines antipersonnelles ont provoqué encore plus de victimes dans le monde l'an dernier. C'est la troisième année de suite que l'Observatoire des mines, qui publie aujourd'hui son rapport annuel, constate une hausse alors que le nombre de victimes n'avait cessé de diminuer au cours des 15 années précédentes. Voici les faits saillants du rapport, qui contient également quelques bonnes nouvelles. Je vous en donne quelques-uns. C'est l'article de Jean-Thomas Léveillé, 8605. C'est le nombre de personnes qui ont été tuées ou blessées en 2016 par des mines antipersonnelles et des restes explosifs de guerre, soit presque autant qu'en 1999, lors de l'entrée en vigueur de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Pourtant, le nombre de victimes avait baissé continuellement jusqu'en 2013, alors qu'il avait atteint un creux historique de 3450. C'est alarmant, a déclaré lors d'un entretien téléphonique avec la presse Jérôme Bobin, directeur de Handicap International Canada, qui a contribué au rapport. Il rappelle par ailleurs que ces armes ne sont pas conçues pour tuer, de sorte que 75 % des victimes sont des blessés qui nécessitent un accompagnement à long terme, tant physique que psychologique. 78 % proportion des victimes en 2016 qui étaient des civils. 1554 parmi les victimes, nombre de ceux qui étaient des enfants. Un triste record. L'Observatoire n'en avait jamais recensé autant depuis son premier rapport en 2000. Le nombre réel pourrait être plus élevé, l'information concernant l'âge des victimes n'étant pas toujours disponible. L'incendie qui a détruit 6 demeures luxueuses à Bel Air a été causé par un réchaud dans un campement de sans-abri, selon les pompiers, signe que la crise des sans-abri à Los Angeles rattrape même les beaux quartiers. L'incendie Skirball, qui a réduit en cendres des maisons valant des millions de dollars dans une enclave fermée au public du quartier de Bel Air, prisée des célébrités et des grandes fortunes, était presque totalement éteint hier, ont indiqué les autorités de la mégapole californienne. L'enquête a établi qu'il avait été causé par un feu de cuisson illégal dans un campement à proximité de l'une des entrées des zones les plus privées de Bel Air, fermée aux visiteurs par de lourdes grilles. C'est notamment là que se trouve la propriété du magnat des médias Rupert Murdoch, qui comprend un vignoble.
Hey, qu'est-ce que sais-tu vu qu'il dit de plus? Il a tombé en amour avec une espionne russe qui fumait des super slim au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus, mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur. Il se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. Se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Ouais, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le trou de son chest que lui avait laissé. Mais moi, je m'ai arrêté, je regardais dedans. J'ai dit, hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Je t'ai alright man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là dans la mousse pour guérir. Et en deux temps, trois mouvements, mais je suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Là, j'ai tombé. Tu veux qu'on dise au juste? On a tombé en amour encore une fois de plus avec une fille qui fumait des clopes au milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus. Mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue.
Joseph Edgar et sa chanson Espionne russe.
À la une du Devoir de ce 14 décembre 2017, c'est une photo inhabituelle, une page d'un album, d'une BD finalement de Cyrus, et puis publiée à la pastèque. On a la page 218, Cyrus a affronté bien des monstres qu'il a domptés pour mieux nous les présenter. Bande dessinée sauvée par la musique, la BD et les amis. Avec Vogue, La Valise, L'Intégrale, l'auteur Cyrus, un vétéran de la BD Underground, complète l'œuvre d'une vie. Aide à mourir, on en parle aussi, comme dans la presse d'ailleurs, en une. L'objection de conscience cache tout autre chose. D'accord avec la loi, de nombreux médecins préfèrent laisser ce soin de vie à d'autres, montre une étude menée à Laval. Le SPVM accusé d'avoir fermé les yeux sur un cas de brutalité policière. Gabriel Duchesneau poursuit la police et la ville pour 505 000 $ après avoir subi une triple fracture du crâne lors d'une manifestation. L'objection de conscience a bon dos pour justifier le refus de plusieurs médecins de dispenser l'aide à mourir. Une recherche menée à Laval révèle plutôt que 77 % des médecins qui ont décliné la demande des patients l'ont fait pour des raisons émotives, par manque de formation, de temps et par crainte d'être jugés par leur pair. Les tout premiers résultats de cette recherche menée auprès des 61 médecins ayant reçu les 113 demandes d'aide à mourir formulées sur le territoire du CI3S Laval depuis l'entrée en vigueur de la loi sont étonnants. Ces résultats sont d'autant plus surprenants qu'un sondage mené auprès des médecins de la région avant l'entrée en vigueur de la loi sur les soins de fin de vie en 2015 avait démontré que 48 % d'entre eux se montraient prêts à dispenser l'aide à mourir et que près du tiers s'y disait prêt à le faire dans certaines conditions. Seulement 28 % des praticiens sondés avaient déclaré qu'ils ne le feraient jamais. Pour la docteure Lucie Opartny, directrice des services professionnels au CI3S de Laval, il ne faut pas penser que le taux élevé de refus a privé des patients de l'accès à l'aide à mourir dans la région de Laval. Ce n'est pas parce qu'un médecin refuse de donner l'aide à mourir que le patient n'a pas accès aux soins. Dans tous les cas, les demandes sont envoyées à un autre médecin, précise-t-elle. Malgré tout, les rapports publiés tous les 6 mois par le CI3S de Laval démontrent que le taux de refus reste élevé dans cette région. À la lumière de cette réalité, la directrice des soins professionnels affirme que ces obstacles peuvent être surmontés. Il va falloir offrir du mentorat, de l'accompagnement et du soutien. De dire la docteure Opartny, il faut réfléchir à la façon d'aider nos médecins et notre personnel soignant. Chantier de construction, les dirigeants de 2 mosquées nient avoir demandé l'exclusion des femmes. La Commission de la construction du Québec n'a encore rien trouvé qui accréditerait le reportage diffusé sur les ondes du réseau TVA. Gabriel Duchesneau, un habitué des manifestations Centre-Ville de Montréal, a déposé une poursuite civile de 505 000 $ contre le SPVM après avoir quitté en ambulance le crâne ensanglanté une manifestation tenue le 1er mai 2012. Il affirme, témoin à l'appui, avoir été battu par un groupe de policiers à l'angle de la rue McGill College et du boulevard de Maisonneuve durant cette journée mouvementée du printemps étudiant de 2012. J'étais seul, non armé, et les policiers m'ont coincé dans un coin pour me frapper sur la tête à coups de matraque, raconte Gabriel Duchesneau au Devoir. Plus de 5 ans après les faits, l'homme de 1,57 m, 5 pieds et 2 pouces, reste ébranlé par ce qu'il dit avoir vécu. La voix chevrotante, les cheveux en broussaille, cet étudiant à l'Université du Québec à Montréal dit souffrir de perte de mémoire, faire des cauchemars à répétition et avoir des douleurs à la tête depuis les événements du 1er mai 2012. Son avocat, Maître Marc Chitrit, reproche à la police non seulement d'avoir battu son client, mais d'avoir cherché à camoufler ce qu'il qualifie de bavure. Ce dossier vient d'être inscrit pour procès, a indiqué la Cour supérieure dans une lettre du 7 décembre 2017. La date d'audition sera fixée dans les meilleurs délais. Entre-temps, les avocats de Gabriel Duchesneau et de la Ville de Montréal ont interrogé et contre-interrogé des témoins. Juste ajouter à ce sujet, la Ville de Montréal et le SPVM nient les faits allégués par Gabriel Duchesneau. Les élèves du primaire et du secondaire auront l'obligation de suivre des cours d'éducation sexuelle à compter de septembre prochain, a appris la presse canadienne mercredi. L'information a été confirmée par le premier ministre Philippe Couillard dans un entretien exclusif. Au cours des 2 dernières années, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a tenté d'implanter graduellement sur une base volontaire l'éducation sexuelle à l'école, mais sans grand succès. La grande majorité des écoles n'a pas suivi, tandis que les syndicats d'enseignants ont dénoncé le manque de formation et l'approche retenue par Québec. Mais dès septembre, toutes les écoles de toutes les commissions scolaires devront offrir des cours d'éducation sexuelle, et ce, de la première année du primaire à la 5e secondaire. Cette mesure touche environ 1 million de jeunes. J'ai l'impression que la vaste majorité des Québécois souhaitent ça, a commenté le premier ministre. Le tollé déclenché par l'amende anti-tabac imposée au Théâtre du Trident n'a pas ébranlé la ministre Lucie Charlebois qui prévient que des amendes continueront d'être données en cas de plainte. Il y a eu une plainte, c'est pour ça que les inspecteurs y sont allés, a signalé la ministre déléguée à la Santé publique. S'il y a quelqu'un qui est incommodé, c'est pour ça qu'il a porté plainte. On ne va pas comme ça dans les théâtres. À la question de savoir si la réaction n'était pas exagérée, Mme Charlebois a rétorqué qu'il faudrait voir avec les citoyens parce que c'est un citoyen qui a porté plainte. Dès lors, indique-t-elle, le ministère de la Santé procédera de la même façon si d'autres plaintes sont déposées, en vertu de la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Rappelons que cette loi stipule qu'il est interdit de fumer dans les bâtiments publics. Le 23 novembre dernier, des inspecteurs ont répondu à une plainte visant le Théâtre du Trident à Québec parce qu'une comédienne fumait une cigarette dans la pièce « Le cas Joey Ferguson ». Le théâtre a reçu une amende de 682 $. Mardi, dans les pages du Devoir, l'auteur de la pièce Isabelle Hubert, proposait que les scènes de théâtre bénéficient d'un statut particulier et qu'un message soit diffusé au début de la pièce pour que les personnes que ça pourrait indisposer aient le temps de quitter la salle et de se faire rembourser. Et la ministre Vallée corrige une faille dans la LIVA que la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, a annoncé mercredi qu'elle corrigera une faille de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels afin d'éviter que le comportement d'une victime d'agression sexuelle puisse être pris en compte dans la décision d'octroyer ou non une indemnisation. Ici Hélène Denis, on se retrouve après la pause. Merci d'être à l'écoute.
Navigateur, mains ouvertes sur les songes, tu sais la carte de mon cœur, les jeux qui te prolongent, et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur. La lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur. Le pied secret, ce qu'il nous faut écouter. L'oreille comme un coquillage, dans quel pays tu sembles. Amour et moi, dans l'octave du don. L'oreille comme un coquillage. Mon bel amour, navigateur sur la jetée de la nuit, je saurai ma présente d'un vœu à l'azur ton mystère. Déchiré d'un espace rouge gorge, mon bel amour, navigateur. Déchiré d'un espace rouge gorge, mon bel amour, navigateur.
Jim Corcoran qui nous chantait une chanson écrite par M. Gaston Miron. La chanson s'appelait « Mon bel amour ».
En une du Journal de Montréal, en entrevue au journal, enquête mâchurée sur le financement du Parti libéral du Québec, 300 témoins rencontrés. Le patron de l'UPAC en photo, Robert Lafrenière, a admis hier que son organisation avait connu une année difficile sur le plan des perceptions. Il croit qu'il y aura des accusations, il défend son indépendance, il dit ne pas enquêter sur les médias, il croit que quelqu'un veut sa place. Les chroniques, le choc des idées, un monde propre, c'est Richard Martineau, une claque pour Trump, Lise Ravary et une orgie consommatrice, Mathieu Bock-Côté. Internet, Google, les Québécois intéressés par les scandales et la royauté. Gilbert Rozon, la nouvelle fiancée du prince Harry, et l'ouragan Irma sont parmi les termes les plus recherchés sur Google en 2017 par rapport à l'an dernier par les Québécois. Les habitants de la province se sont aussi tournés vers Google plus que jamais cette année pour répondre à des questions débutant par « comment », remarque la compagnie dans son bilan annuel publié hier. Celui-ci présente les « tendances », entre guillemets, soit les termes les plus recherchés par rapport à 2016, ce qui explique que plusieurs personnalités déjà connues ne s'y retrouvent pas. Trois exemples de questions souvent tapées dans le moteur de recherche Google en 2017. Comment regarder une éclipse solaire? Comment se forme un ouragan? Que veut dire « despacito » ? Et tendance des 10 Québécois les plus recherchés au Québec en 2017 sur Google, Gilbert Rozon, Patrick Bourgeois, Karine Major, Hugo Fredette, Georges Saint-Pierre, Yvon Lacasse, Giovanni Apollo, Jonathan Drouin, Gilles Parent et Lucie Laurier qui ferme le bal. Il change l'étiquette et double le prix. Très chic styling de l'avenue Laurier à Montréal enlève la marque locale pour y apposer son propre logo. On est très déçus, on travaille fort pour se démarquer et faire connaître notre marque, souligne Jacqueline Harris, copropriétaire avec sa sœur de la marque montréalaise I Love Tyler Madison, dont les étiquettes ont été retirées. Une dizaine de clientes auraient remarqué le stratagème dans la boutique Très Chic Styling, bien connue pour ses robes de bal à bon prix, rapporte Mme Harris. Cette dernière confirme qu'elle a bel et bien fourni la boutique Très Chic, mais qu'elle n'a jamais donné l'autorisation de changer les étiquettes. Mme Harris croit que près de 200 vêtements de sa marque auraient été modifiés. L'une des clientes qui s'est plainte a aussi contacté le journal après avoir trouvé les mêmes pantalons dans un autre commerce et cette fois avec le bon logo. Le Journal de Montréal s'est donc aussi rendu à la boutique Très Chic en se faisant passer pour une consommatrice souhaitant se procurer les fameux pantalons. « Ça va être en rupture de stock, mais j'espère qu'on a votre taille. Tout le monde les veut. Ils sont très beaux », nous a informé l'employée présente. I Love Tyler Madison soutient avoir rompu sa relation d'affaires avec Très Chic Styling après avoir constaté le changement d'étiquette. Le commerce n'écoule donc que ce qui lui reste en stock. Notre représentante des ventes s'est rendue à la boutique. Elle a pris des photos de nos pantalons sans nos étiquettes et derrière où notre logo a été retiré. Nous avons décidé d'annuler toutes ces commandes, mentionne Mme Harris. D'ailleurs, on a les photos des pantalons, pantalons avec l'étiquette modifiée, pantalons avec l'étiquette d'origine. Le journal a tenté par tous les moyens de parler à la propriétaire de la boutique Très Chic Styling, Angelica Quenis, afin d'avoir sa version de l'histoire. Cette dernière nous a finalement répondu par une lettre d'avocat, se plaignant de harcèlement de notre part et demandant que l'article ne soit pas publié. We'll be right back. parasite tropical dans le sang, une maladie du sud potentiellement mortelle, circule en douce dans les veines de milliers de Canadiens. Nous sommes face à un réel problème de santé publique, prévient Momar Ndao, directeur du Centre national de référence en parasitologie à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, en collaboration avec une équipe de spécialistes en médecine tropicale et en médecine de laboratoire de Winnipeg et de Montréal. Le docteur Ndao vient de publier une analyse sur la maladie de Chagas, C-H-A-G-A-S. Est-ce qu'il faut prononcer le S? L-S? À suivre dans la revue médicale de Canadian Medical Association Journal. Cette maladie méconnue, un mal parasitaire responsable de 50 000 morts par an en Amérique latine, circule au Canada. La Société canadienne du sang distribue du sang partout au pays, sauf au Québec, où Emma Québec prend le relais. Ce n'est qu'entre 2009 et 2010 que les deux organisations ont enrichi leur questionnaire d'identité des donneurs. Si j'avais reçu une transfusion sanguine avant 2010, je demanderais à être testée pour la maladie de Chagas ou Chagas, dit le docteur Ndao. Une aide de 10 millions à Capital Media. Le gouvernement provincial vient à la rescousse du groupe Capital Media avec une aide financière. Une annonce aura lieu aujourd'hui à Saguenay. Le groupe médiatique qui faisait partie du conglomérat GESCA avec la presse de la famille Desmarais jusqu'en mars 2015 appartient à l'ex-politicien fédéral Martin Cauchon. Le groupe comprend les quotidiens régionaux Le Soleil, Québec, Le Droit, Ottawa-Gatineau, Le Quotidien, Saguenay, Le Nouvelliste, Trois-Rivières, La Tribune, Sherbrooke et La Voix de l'Est, Green Bay. Le montant de 10 millions octroyé par l'entremise d'Investissement Québec s'inscrirait dans un projet plus ambitieux de modernisation de la presse écrite au Québec, totalisant un budget de 26 millions. Et pour revenir à la maladie dont je parlais tantôt, Mathieu a fait des recherches. Merci, Mathieu. Et il faut dire Chagas, c'est selon lui, selon ce qu'il a lu, Darwin en serait mort. Cette maladie, donc méconnue, c'est un mal parasitaire responsable de 50 000 morts par an en Amérique latine. Le parasite se transmet par la morsure du Trianum, une variété de punaise qui se nourrit de sang. Bien que cet insecte tropical ne survive pas ici, le parasite est présent car il se transmet aussi de la mère à l'enfant par le placenta et par le sang. Ragot devant les juges, mandat intrusif et manque de formation, la commission Chamberlain a étalé au grand jour des façons de faire douteuses des policiers. Les attentes sont donc grandes pour le rapport qui sera déposé aujourd'hui. La commission d'enquête sur la protection des sources journalistiques fera une série de recommandations au gouvernement. À l'automne 2016, les médias ont révélé que des journalistes avaient été épiés par des policiers voulant dénicher leurs sources. Autant le service de police de la Ville de Montréal que la Sûreté du Québec ont obtenu des mandats de juges de paix pour scruter leurs appels entrants et sortants. Dans les mémoires déposés cet automne, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et le Conseil canadien des avocats de la Défense ont proposé que lorsqu'un mandat est requis contre un journaliste, la demande soit faite à un juge de la Cour supérieure et non à un juge de paix. plus de pistes cyclables cet hiver. La mairesse Valérie Plante avait souvent répété pendant la campagne électorale qu'elle allait améliorer la vie des cyclistes à Montréal. Cet hiver, 521 km de voies cyclables demeureront ouvertes, ouvertes à Montréal, soit 89 km de plus que lors de la précédente saison hivernale.
Hey Babies, qui nous chantait « Laisse le pote laisser ».
La tournée des journaux régionaux dans le droit, Jim Watson, opéré d'urgence, Charles-Antoine Gagnon. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a été admis à l'hôpital Queensway-Carleton mercredi pour subir une appendicectomie en soirée à la suite d'un malaise intense qui l'a foudroyé plus tôt en journée, a fait savoir son chef de cabinet Serge Arpin mercredi soir. Le maire Watson a présidé la réunion du conseil municipal de mercredi, dont la portion portant sur le budget 2018 de la ville, avant d'avoir sa crise d'appendicite. M. Watson sera absent du bureau au cours des prochains jours. Dans le droit encore, sous la plume cette fois de Mathieu Bélanger, un règlement pour les boîtes de dons. La ville de Gatineau entend légiférer d'ici l'été prochain pour encadrer la présence des bacs de dons sur son territoire. L'objectif avoué est de favoriser les organismes à but non lucratif œuvrant à Gatineau et du même coup de montrer la porte aux entreprises de l'extérieur dont les bacs poussent comme des champignons un peu partout en ville depuis quelques semaines. Le maire Maxime Pétenot-Jobin a précisé que la commande pour la mise en place de ce nouveau règlement venait d'être donnée à l'administration. On a vu qu'il y a des affrontements entre différentes entreprises et cela a des conséquences pour certains organismes, a-t-il dit. L'objectif général est de favoriser le dépôt des articles dans des boîtes qui appartiennent à des OBNL de la région ou à des OBNL qui ont une grande partie de leurs activités dans la région. M. Penneau-Jobin ne s'est pas rendu disponible pour répondre aux questions des médias à ce sujet. Questionné à savoir si une ville pouvait empêcher des entreprises privées de faire des affaires sur son territoire, le président du comité exécutif, Gilles Carpentier, a précisé que les services juridiques participeront à l'élaboration de la nouvelle réglementation. On n'est pas dans la défavorisation et l'exclusion, mais en même temps, ça doit être guidé par des principes qui visent des enjeux d'économie sociale, a-t-il souligné. Dans la tribune, Tommy Brochu, la force de rebondir de Lynn Joly. Moins d'un an après un accident de cheval, la cavalière Lynn Joly vise les Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. C'est ce rêve qui fait qui me motive à me lever le matin, souligne-t-elle. L'entraîneuse de chevaux est tombée de sa monture en janvier dernier, ce qui l'a laissée tétraplégique. Pendant un entraînement avec un jeune cheval qui avait un trop-plein d'énergie, la cavalière a été désarçonnée. Après une lourde chute, la cavalière s'est fracturée les cervicales C6 et C7, ce qui a paralysé ses jambes et ses mains. Heureusement, la chute n'a pas refroidi la grande passion de Lynn Joly pour les chevaux. L'entraînement est exécuté sur une base quotidienne par la cavalière. 4 fois par semaine, je m'entraîne dans l'aréna. Je monte Blue, ma jument, explique celle qui caresse de bien grands rêves. Par contre, rien n'est gagné pour l'amoureuse des chevaux. Je n'ai plus d'abdominaux, donc je suis comme un œuf sur une table. Ça ne tient pas du tout. J'ai seulement 50 % de la force que j'avais dans mes mains, mentionne-t-elle. En plus de l'entraînement à cheval, Mme Joly tente de récupérer de la force dans ses muscles. Grâce à sa persévérance, la situation de la cavalière s'est améliorée considérablement ces derniers mois. Je fais de la natation une fois par semaine et je vais au gym. Au début, j'étais paralysée à partir du cou. J'ai beaucoup gagné en force depuis la chute. Je sais que je vais devoir travailler fort pour atteindre mon objectif, affirme-t-elle. Une expression dit qu'un cavalier doit remonter en selle le plus vite possible après un accident. 4 mois après l'accident qui a privé Mme Joly de ses jambes, l'athlète remontait sur son animal préféré. « Je suis sortie de l'hôpital au mois de mai. C'est peut-être tôt, mais c'est quand même ce que j'ai fait », sourit Mme Joly. « Techniquement, je devrais encore être à l'hôpital. » Je devrais être en réadaptation. Je suis capable de le faire à la maison. Mon conjoint m'aide beaucoup là-dedans, ajoute-t-elle. Lorsqu'elle faisait de la compétition, Mme Joly montait son cheval Romero, son champion avec lequel elle a fait la pluie et le beau temps. J'aimerais ça, le monter en compétition. On va en trouver un autre s'il n'est pas prêt pour moi ou si je ne suis pas prête pour lui. On va certainement pouvoir arranger quelque chose, assure-t-elle. L'adepte des chevaux possède encore 5 bêtes. 10 autres sont en pension chez elle à Sherbrooke. Aux Jeux paralympiques, Mme Joly aimerait participer à la compétition de dressage qui consiste à faire marcher le cheval. Les critères évalués dans cette discipline sont la puissance musculaire, l'ampleur des mouvements et la coordination. Comme Mme Joly n'a plus de gagne-pain, elle participera à un souper bénéfice en janvier. « J'aimerais amasser assez d'argent pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques de 2020. » Mes amis organisent le souper, il y a beaucoup de cadeaux qui seront tirés, indique-t-elle. L'entraînement coûte beaucoup d'argent, confirme Lynn Joly. De plus, il me faut une nouvelle selle adaptée. On a déjà réussi à modifier une selle, mais maintenant je dois être capable de monter. Les services de la spécialiste en ergothérapie ne sont pas gratuits. En plus, le voyage coûte cher, poursuit-elle. Le souper se tiendra au domaine Jolimont le 20 janvier. Des billets sont disponibles au coût de 100 $. C'est grâce à tous mes amis qui organisent le souper bénéfice et à Cheval Québec que je suis motivée à me lever le matin et de croire en mes rêves, se réjouit Lynn Joly. Les personnes intéressées à participer au souper ou à apporter leur soutien à Lynn Joly peuvent rejoindre Caroline au 819-674-0208, 819-674-0208. Dans le quotidien, Jonathan Hudon secourut dans la forêt après plusieurs heures, un événement qui aurait pu connaître un dénouement tragique s'est finalement bien terminé vers 19h mercredi soir. Une adolescente de 17 ans qui avait envoyé un message texte en matinée à une amie pour lui dire qu'elle était perdue en forêt a finalement été localisée en début de soirée après plusieurs heures de recherche. La jeune femme était accompagnée d'un ami. Ils ont décidé de quitter le chalet où ils se trouvaient après que ceux qui devaient venir la chercher ne l'aient pas fait. Le duo a été repéré par deux policiers en motoneige à Saint-Ambroise, près du géant motorisé dans un champ. Lieutenante à la sécurité publique de Saguenay, Sabrina Savard, a fait savoir que les deux jeunes se portaient bien malgré les mauvaises conditions météorologiques qui sévissaient. Semble-t-il qu'ils étaient égarés depuis 10 heures le matin. Selon la direction qu'ils ont empruntée, ils étaient convaincus qu'ils traverseraient le bois avant d'aboutir sur un chemin dégagé et qu'ils seraient en ville, mais ce ne fut pas le cas, a décrit Mme Savard. Les policiers ne pouvaient dire à quel endroit les deux jeunes se trouvaient au départ, car eux-mêmes ne le savaient pas trop. L'adolescente n'avait plus de batterie dans son cellulaire, ce qui l'empêchait de communiquer avec des proches. Deux policiers en motoneige ont fini par localiser les deux personnes, soit un jeune homme dans la vingtaine et une jeune femme de 17 ans, a confirmé Sabrina Savard. On a réussi à situer les environs et on a pu les retracer. Ils commençaient à avoir froid et ils tournaient en rond. Avec la température qu'on a, on était très soulagés de les retrouver. Disons que c'est un beau sauvetage. La lieutenante à la SPS a indiqué que les deux jeunes se portaient bien à l'arrivée des services d'urgence malgré les circonstances. Ils n'ont pas eu besoin de soins particuliers. Dans le Nouvelliste, l'heure est à la confection des paniers. Vincent Mongrain, les artisans bénévoles de la paix en Mauricie seront très occupés au cours des prochains jours. En effet, ils devront faire la confection et la distribution de 1715 paniers de Noël d'ici vendredi. Robert Tardif, directeur général de l'organisme, affirme qu'entre 100 et 150 bénévoles mettront la main à la pâte dans le cadre de cette activité. La confection va très bien. Nous avons une belle équipe de bénévoles. Cependant, il y a eu beaucoup de travail à faire en amont afin de préparer la chaîne et placer les denrées. Ainsi, ce sont près d'une centaine de boîtes de nourriture qui seront confectionnées chaque heure. Plus de 600 jouets seront également remis pour les enfants de moins de 12 ans. Monsieur Tardif ne s'en cache pas, la 37e campagne des paniers de Noël aura été plus difficile. Nous avons dû travailler dans l'adversité cette année. Il y a eu des changements au niveau des collectes de denrées pour certains partenaires qui ont fait en sorte que nous avons eu moins que par le passé. Habituellement, les pompiers font une grosse collecte et ils achètent des denrées qu'ils viennent nous porter, mais ils ont eu à combattre un incendie la veille, donc ils étaient moins disponibles pour faire la collecte le lendemain. Heureusement, la grande guignolée s'est bien déroulée. Encore là, nous avons eu un peu moins, mais nous sommes satisfaits. Les gens vont avoir de beaux paniers quand même, affirme-t-il. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Merci d'être à l'écoute. À venir à l'émission, les actualités culturelles et aussi les sujets libres. On aura une chanson, une belle chanson de Charles Aznavour, c'est ça, Mathieu? Oui, on vous en dit pas plus.
Le bruit familier de la boîte à la mode, aux lueurs psychédéliques, aux curieux décors. Nous découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connus parmi ceux de notre âge. Toi,
comme en pèlerinage. Danser en la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Mon cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens. Noyés dans la cohue, mais dissociés du bruit. Comme si sur la terre, il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. La piste envahie, c'est un spectacle rare. Les danseurs sont en transe et la musique est là. Ils semblent sacrifiés à des rites barbares. Sur des airs d'aujourd'hui, souvent vieux de tout temps. L'un à l'autre étrange et bien que dansant ensemble. Ne font pas corps ensemble. Dans cette obscurité propice aux amoureux. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens, noyé dans la cohue, mais dissocié du bruit. Comme si sur la terre, il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre.
Serre-toi encore plus fort. T'occupe pas des autres. On est bien comme ça, la joue contre ma joue. Tu te souviens? Ça fait un drôle d'effet tout de même. On a l'impression de danser comme nos parents. Dans le fond, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. Les époques changent. L'amour reste. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue.
Voilà. l'incomparable Aznavour et cette très belle chanson « Plaisir démodé » dédiée à Madame Françoise, puisque c'est son anniversaire. Alors, bonne fête!
Madame Françoise, qui est ma mère, Mathieu, en passant, on l'a dit en début d'émission, mais pour ceux et celles qui n'auraient pas été là...
Et j'avoue, c'est j'étais, une... j'étais dans mon propre oui. discours interne.
Alors, une chanson qu'elle aime beaucoup de Charles Aznavour, « Plaisir démodé », elle qui est indémodable. Alors, actualité culturelle, la chronique d'Hugo Dumas, premier moment zen avec Véro. Les mauvaises vibrations ont été chassées du studio 42 de Radio-Canada qui a hébergé votre beau programme l'hiver dernier. Le décor a été complètement refait autour d'une immense pastille blanche sur laquelle reposent deux canapés gris. Vêtue en noir de la tête aux escarpins, Véronique Cloutier paraît calme, sereine et même très zen sur son plateau lumineux où elle a déjà enregistré deux épisodes de première fois, sa nouvelle émission de variété qui décollera le jeudi 18 janvier à 20h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé. La Véro qui rigole devant nous n'est pas du tout la même, n'est pas du tout dans le même état d'esprit que celle de décembre 2016, alors qu'elle s'apprêtait à mettre en orbite un projet casse-cou au contour mal défini. L'an passé, il y avait un stress très présent. On le sentait bien que les gens nous disaient « Voyons, ce n'est pas clair votre affaire. » Dans tout ça, j'essayais d'être une bonne mère pour mes enfants à Noël. Je faisais la tournée avec les Morissette et j'allais être en direct le 11 janvier, se souvient celle qui s'est rebaptisée « La survivante du Studio 42 ». Pas du tout déstabilisée, Véronique Cloutier qui affirme avoir pensé ses plaies à 200%. Peut-être que ce n'était pas clair, votre beau programme. Peut-être qu'on a essayé trop d'affaires. C'est comme si j'avais fait un détour. J'ai fait la paix avec ça. J'en ris aujourd'hui, dit Véronique Cloutier. Les images de première fois qui ont été montrées hier midi aux journalistes annoncent une émission émouvante, festive et remplie de surprises. Pas de malaise en perspective, Véro reste dans le plaisir et les moments de bonheur. Bonne décision. L'animatrice recevra toutes les semaines deux invités qui placoteront de leur première fois, comme le nom de l'émission l'indique. Et oui, premier party de sous-sol, premier concert rock, première danse collée, premier mariage, ce concept québécois du producteur Pierre-Louis Laberge ratisse large. Hélène Bourgeois-Leclerc et Pierre-Yves Laure ont été jumelés pour une émission, tandis que Julie Perrault partagera son sofa avec Rémi-Pierre Paquin. Dans l'émission qui a servi de pilote, Véro et son équipe ont recréé en studio le mariage de Sonia Vachon pour lui permettre de prendre en photo le fameux coupage de son gâteau de noces qu'elle n'a jamais pu immortaliser sur pellicule. L'émission va donc au-delà des anecdotes et sera pimentée d'éléments « wow » qui surprendront les convives. Fait d'ici entrer des amis perdus de vue ou d'anciens camarades du primaire. Autre exemple, Rémi-Pierre Paquin a toujours rêvé de chanter au Centre Bell. Comme il y a une première fois à tout, il s'exécutera sur « Journée d'Amérique » de Richard Séguin pendant un spectacle de Grégory Charles et Marc Hervieux. Nina Simone, Bon Jovi et Dire Straits vont entrer au Rock'n'Roll Hall of Fame, annoncé hier le Panthéon du rock. La QV 2018 inclut également The Cars, Rosetta Tharpe et les Moody Blues. Les élus ont été désignés lors d'un scrutin auquel ont participé un millier de professionnels et d'historiens de la musique. La cérémonie d'intronisation aura lieu le 14 avril au Public Hall de Cleveland. Thank you. Cirque, la critique du spectacle Cristal du Cirque du Soleil au Centre Vidéotron jusqu'au 17 décembre et au Centre Bell du 20 au 31 décembre. Jean Siag accorde 3,5 étoiles. Le cirque se met au patin. La ville de Québec avait des airs de carnaval hier soir avec ses immenses bancs de neige formés en moins de 48 heures. Le cadre idéal pour accueillir le premier spectacle sur glace du Cirque du Soleil, non? Malheureusement, le public n'a pas tout à fait répondu à l'appel si l'on se fie aux nombreux sièges vides du Centre Vidéotron. N'empêche, pour son baptême de glace, le cirque a mis le paquet pour impressionner la galerie avec son immense château de glace érigé à une extrémité de la patinoire, mêlant assez justement les arts du cirque avec le patinage artistique, une fusion qui n'allait pas nécessairement de soi, mais qui s'est avérée finalement plutôt réussie. On peut le dire, le coup de patin du cirque est efficace. Hayek harcelé par Weinstein. Harvey Weinstein est mon monstre à moi aussi. C'est le titre du troublant récit de Salma Hayek publié dans le New York Times hier. L'actrice mexicaine y révèle les détails du harcèlement sexuel qu'elle a subi de la part de l'influent producteur pendant le tournage du film Frida au début des années 2000. À ses yeux, je n'étais pas une artiste, je n'étais même pas une personne, j'étais une chose, juste un corps, écrit-elle. L'actrice explique avoir dû refuser sans cesse les avances insistantes d'Harvey Weinstein. Non pour prendre une douche avec lui, non pour le laisser me regarder prendre une douche, non pour faire un massage, non pour laisser une de ses amies nues me faire un massage, non, 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 se souvient Salma Hayek, qui aurait également été menacée par le producteur. « Je vais te tuer. Ne pense pas que je ne peux pas le faire », lui aurait-il lancé alors qu'elle ne cédait pas à ses avances. Mike Ward n'a pas apprécié l'attention du premier ministre Philippe Couillard qui a offert sur Twitter ses félicitations aux gagnants du Gala Les Oliviers. Le lauréat du trophée du meilleur podcast ou balado humoristique pour Sous-écoute a répliqué sur le réseau social « Votre gouvernement a financé une poursuite de la part de la CDP, Commission des droits de la personne, qui m'ont causé une dépression et m'ont coûté plus de 150 000 $, mais merci ». Mike Ward fait référence à la poursuite intentée par la commission dans la foulée de son sketch sur Jérémy Gabriel. Le Tribunal des droits de la personne avait condamné l'humoriste à payer 35 000 $ au jeune chanteur, ainsi que 7 000 $ à la mère de ce dernier, une cause qui a été portée en appel. Le bureau de l'Ombudsman de Radio-Canada a rendu hier sa révision du reportage de Louis-Philippe Ouimet présenté au Téléjournal le 15 novembre dernier. Le reportage portait sur les allégations de harcèlement psychologique à l'encontre du comédien Gilbert Sicotte dans ses fonctions de professeur au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Sa diffusion a provoqué une vague de réactions d'une rare ampleur, selon la Direction générale de l'information. Radio-Canada a reçu plus de 100 plaintes de téléspectateurs. Dans son rapport intitulé « Parlons de l'affaire Sicotte », Guy Gendron trace le fil des événements. Ayant mené à la diffusion du reportage, de sa préparation à sa durée, 8 minutes, en passant par le montage et l'encadrement éditorial. Il résume le contenu des plaintes et expose la démarche du journaliste qui travaillait à ce dossier depuis août dernier, après avoir reçu un premier courriel dénonçant les méthodes d'enseignement de Gilbert Sicotte. Le rapport défend l'intérêt public du reportage et récuse les accusations de chasse aux sorcières ou de sensationnalisme. En vertu de quel principe le harcèlement psychologique serait-il aujourd'hui une simple affaire privée devant échapper à la sphère de l'intérêt public? Pourtant, il y a 15 ans que l'Assemblée nationale du Québec a adopté une loi pour l'interdire sur les lieux de travail, y compris dans les institutions. Au point de sacrer, point d'interrogation. En demandant en entrevue avec Gilbert Sicotte s'il lui arrivait de sacrer après les étudiants, l'Ombudsman croit que le journaliste a mal formulé sa question par inconfort. C'est louable journalistiquement parlant, mais catastrophique télévisuellement parlant, car elle, la formulation, a pu teinter l'évaluation du public quant aux motivations du journaliste Et donc, quant à la crédibilité du reportage et à son intérêt public, c'est un extrait du rapport de Guy Gendron, Ombudsman de Radio-Canada.
Charlotte Cardin et sa chanson « Les Échardes ».
Sujet libre, un repas de Noël pour briser l'isolement des femmes pauvres. C'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, Camille Garnier qui signe le texte. Plus de 200 femmes pauvres qui souffrent particulièrement de solitude pendant le temps des fêtes ont pu profiter hier d'un repas de Noël offert par l'organisme d'aide aux femmes en difficulté chez Doris. J'ai des enfants, mais ils ne viendront pas me voir le 24. Pour moi, Noël, c'est vraiment aujourd'hui. C'était donc hier. Mentionnait hier Dina Jacob avant de se mettre à table avec un groupe d'amis dans le local de l'église Évangile située rue Sainte-Catherine à Montréal. Cette femme de 56 ans qui reçoit de l'aide sociale ne dispose que de 300 $ par mois pour vivre une fois qu'elle a payé son loyer. On ressent encore plus le manque d'argent à Noël car il y a des affiches et des spéciaux partout, expliquait-elle. Il y a des choses dont on ne peut pas profiter. Pour aider ces femmes à oublier le temps d'une journée leur solitude et leur manque de moyens, l'organisme chez Doris avait prévu, en plus de la nourriture et de la musique, des cadeaux personnalisés. « Nous avons une liste de tous les vœux de Noël des 240 femmes », confirmait la directrice de chez Doris, Marina Boulos. « Ça peut être un crucifix, un chèque cadeau pour IGA ou du rouge à lèvres. C'est vraiment chouette de les rendre heureuses. C'est la 40e année consécutive que l'organisme offre ce repas des fêtes. » Bernard Lavallée, nutritionniste, collaboration spéciale à la presse, mes souhaits pour 2018. Dans quelques semaines, nous dirons au revoir à 2017. Côté alimentation et nutrition, nous assisterons sans l'ombre d'un doute à la naissance de nouvelles tendances et à la disparition d'autres. De mon côté, je suis plutôt optimiste de nature, mais j'entrevois l'avenir de façon positive. Alors, j'entrevois l'avenir de façon positive, puisqu'il est optimiste. Mais parfois, on ne perd rien à lancer des vœux dans l'univers pour qu'ils se réalisent. Je vous transmets donc quelques souhaits que j'entretiens pour l'année à venir et les suivantes, entre parenthèses. S'ils se réalisaient, notre système alimentaire et notre relation à l'égard de la nourriture en seraient tous deux grandement améliorés. Un guide alimentaire canadien adapté au 21e siècle. Un des plus beaux cadeaux que le Père Noël pourrait m'apporter serait sans doute une nouvelle mouture du guide alimentaire canadien ancré dans le 21e siècle. On y aborderait notamment la transformation alimentaire, un aspect relégué au second plan depuis trop longtemps. On encouragerait les gens à cuisiner davantage et à privilégier les aliments frais. Si l'on se fie aux lignes directrices publiées l'été dernier par Santé Canada, mon vœu risque fort de se réaliser. En plus, les végétaux y occuperont fort probablement le piédestal qu'ils méritent. Qu'on prenne le temps de vérifier les sources avant de croire à un article en nutrition. En 2018, plus question de croire n'importe quoi en nutrition. Il faut se doter d'outils pour déceler les fausses nouvelles ou les faits exagérés dans ce domaine, car ils y abondent. Avant de partager une nouvelle sur la nutrition, usez de votre esprit critique et essayez au moins d'identifier la source. Pour savoir si cette dernière est fiable, sachez que, règle générale, l'information qui émane d'organismes de santé publique, du gouvernement, des universités et des professionnels de la santé a généralement plus de chances d'être appuyée par la science. Que les médias expliquent plus souvent le contexte d'une découverte en nutrition. Les vraies découvertes qui viennent chambouler les idées reçues en nutrition sont très rares. Pourtant, quand le gros titre d'une nouvelle ressemble à « Le bleuet, nouvelle arme contre le cancer !» bon nombre de personnes se trompent en se jetant sur ces petits fruits pour s'éviter cette maladie. Lorsqu'on présente de telles études, un peu plus de contexte serait indéniablement pertinent. Par exemple, l'étude a-t-elle été effectuée sur des cellules, des animaux ou sur un être humain? Ou encore, parle-t-on d'une molécule bien précise propre au bleuet ou encore du jus de bleuet ou des bleuets frais? Quelle quantité de l'élément miracle ont été testés? Et surtout, d'où vient le financement de l'étude? Le contexte dans lequel les études ont été réalisées changera totalement l'importance qu'on devrait lui accorder. Qu'on cesse de croire qu'on vient de découvrir une diète qui fonctionne à long terme. L'année qui s'achève nous a rappelé qu'on croit encore au miracle et à la magie. Malgré des décennies d'échecs pour les régimes faibles en glucides, on continue toujours à diaboliser le pain, les pâtes, les patates, le sucre et même dans certains cas les légumineuses et les fruits. C'est que le mouvement anti-glucides vit un second et troisième et quatrième souffle. Tant que l'on continuera de s'attaquer à des nutriments précis, en prétextant qu'ils sont la cause de nos maux, nous ferons assurément fausse route. Espérons qu'on s'attardera plutôt aux habitudes alimentaires durables qui excluent notamment la restriction. Qu'on se rappelle qu'on ne mange pas que pour la santé, mais aussi pour le plaisir. Il s'agit ici d'un de mes vœux les plus chers. On doit cesser d'aborder l'alimentation uniquement sous l'angle de la nutrition. Oui, la santé, c'est primordial et ce qu'on mange a clairement un impact sur celle-ci. Toutefois, il ne faut pas oublier que la nourriture remplit d'autres rôles tout aussi importants. Par exemple, les repas participent à renforcer les relations entre les membres d'une famille et les amis. Ils sont aussi source de multiples plaisirs. Enfin, ils nous lient à notre culture et à notre environnement. Tâchons donc d'inclure ces notions plus souvent dans le discours alimentaire. C'était donc Bernard Lavallée, nutritionniste, une collaboration spéciale dans la presse d'aujourd'hui, section Pause repas, mes souhaits pour 2018. Chaque jour, l'équipe de Pause répond à une question sur les traditions des fêtes. Question. Dans la comédie romantique Love Actually, réellement l'amour en français, film de Noël par excellence, quel acteur joue le rôle du premier ministre britannique? Mathieu.
Stephen Fry.
Pardon?
Stephen Fry.
Non! Ses initiales HG. Hugh Grant. Une des scènes devenues culte est celle où il danse seul dans la résidence officielle du 10 Downing Street sur le succès des Pointer Sisters, Jump. Hilarant. Donc, c'est un film qu'on regarde pratiquement à chaque Noël. On a des traditions comme ça. Vous, votre film de Noël, Mathieu?
Oh là là! Je pense que je suis plus du
La Guerre des Tucs?
Cadeau, non?
Ah oui, ciné cadeau, oui. Il y en a plein.
Ben voilà.
Des films d'animation?
Un Astérix fait toujours la
fin. Ah, c'est vrai! Celui où on chante, là, le pudding à l'arsenic.
Oui,
là.
Cléopâtre.
Astérix, oui.
Et Cléopâtre.
Est-ce que ça a déjà passé? Parce que c'est commencé, ciné cadeau, depuis le 11.
J'ai malheureusement, pas de télévision. Bon.
Moi, c'est Funny Girl avec Barbara Streisand et Omar Sharif.
Ah oui?
Oui. Alors, merci. On se retrouve pour les paractualités, c'est tout. Bye bye.